C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
OK, on parle beaucoup de problèmes de santé mentale. En général, là, si vous faites une recherche dans Internet avec détresse psychologique, vous allez voir, il y a toutes sortes de groupes dans la société. Et quand on met ça bout à bout, je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons certains problèmes de santé mentale. Les jeunes, les ados sont particulièrement touchés. Oui, depuis le début de la pandémie, ça a explosé. Écoutez, moi, je recevais même avant la pandémie des témoignages de parents d'ados qui sont en détresse psychologique et ces parents-là ont de la misère à trouver des services pour leurs adolescents rapidement. C'est encore le cas aujourd'hui. Cette semaine, dossier, ma foi, très intéressant dans le New York Times, très complet sur la nature changeante des troubles de santé mentale auxquels les adolescents américains font face. On va faire le point avec Dr. Annie Loiseau. Elle est psychiatre et présidente du comité psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence au CA de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Dr. Loiseau, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. D'abord, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. Les troubles de santé mentale chez les ados, il y en avait et il y en avait beaucoup avant même la pandémie, non?
Oui, tout à fait. Puis on constatait une augmentation de la détresse chez les jeunes là, avant que la pandémie arrive.
OK. Donc, la pandémie, ça a été quoi le rôle de la pandémie dans les troubles de santé mentale que vous constatez chez les ados?
Bien, ça a exacerbé le problème. Je pense que ça a un peu agi comme un catalyseur, je dirais.
OK. Il y a plusieurs parents qui m'écrivent régulièrement, et ils le faisaient avant la pandémie, pour me dire, écoutez, mon ado menace de se faire mal, mon ado a des troubles d'anxiété là qui l'empêchent de fonctionner, et quand je cogne à des portes au système de santé et de services sociaux, j'ai de la misère à avoir des services. Qu'est-ce qui explique ça?
Bien, c'est un problème complexe. Il faut savoir que la pédopsychiatrie, c'est un système qui gravite avec d'autres systèmes. Qui fonctionne tout en vase communicant. Fait qu'on pense au service de la DPJ, service scolaire, CLSC, service de réadaptation, par exemple, pour la déficience intellectuelle. Donc, c'est sûr que s'il y a des services insuffisants dans un de ces sous-systèmes-là, ben c'est des vases communicants, ça va aussi ça va retomber, soit parce que le problème va s'exacerber ou parce qu'on va nous demander de voir ces jeunes-là qui pourraient être pris en charge ailleurs. Donc, on sait que dans tous ces services-là, actuellement, il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de ressources financières non plus. Les services sont insuffisants à tous les niveaux. Puis, nous, on est en pénurie là, de pédopsychiatres depuis longtemps. Les derniers chiffres du ministère qu'on a là, pour les postes là, en hôpital, là, j'ai pas les chiffres pour les cabinets, mais actuellement, il y a 56 postes disponibles au Québec. Sur 236.
Donc, OK, donc, si je comprends bien, là, au Québec, on a 236 postes budgétés de psychiatres pour les enfants, puis du lot, il y en a 56 qui ne sont pas comblés?
C'est ça.
Pourquoi?
Donc, 183 qui sont occupés. C'est sûr que, déjà, en partant, pas si populaire que ça, là, la pédopsychiatrie. Juste en résidence, là, pour l'année prochaine, on a 4 postes de comblés sur 14, là, des gens qui vont aller se former pour être pédopsychiatres. Puis c'est sûr que dans ces postes-là qui sont budgétés, bien, il y en a aussi qui ne sont pas sur ces postes-là, mais qui pratiquent tout de même la pédopsychiatrie, par exemple, en cabinet privé.
OK, donc c'est pas demain la veille que, quand on va cogner à une porte pour nos ados qui ont des problèmes de santé mentale, que ça va répondre.
Ben, j'espère que le problème va finir par se résoudre avec le temps, mais c'est sûr qu'il va falloir changer l'organisation des services, il va falloir changer nos façons de faire, il va falloir optimiser les services à tous les niveaux.
OK, je veux qu'on parle, Dr. Loiseau, de la nature changeante des problèmes de santé mentale chez les adolescents. Il y a, je le mentionnais tantôt, là, le New York Times a fait un dossier qui était fascinant et effrayant cette semaine sur ce qui afflige les adolescents américains. Anxiété, automutilation, suicide, tout ça, ça a augmenté depuis à peu près 2007. Avant ça, c'était d'autres types de troubles de santé mentale auxquels les jeunes faisaient face. Qu'est-ce qui a changé dans la psyché des enfants pour qu'ils deviennent plus anxieux?
Je suis pas sûre que c'est nécessairement dans la psyché des enfants. Ça pourrait être aussi des causes sociales qui ont été évoquées dans l'article du New York Times. Par exemple, on parlait des écrans, des médias sociaux. C'est quand même quelque chose de relativement nouveau là, dans la société. Justement, 2007, ça correspond pas mal à l'arrivée des médias sociaux.
M'excuse de vous interrompre, mais on disait aussi dans le papier qu'on manque de données à décortiquer. Là. Donc, oui, ça commence là, mais on peut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. Mais
exactement.
C'est quand même intéressant parce qu'un autre des suspects, on va dire ça comme ça, c'est que il y a moins de temps passé par les enfants à jouer entre eux, les ados aussi. Ça passe par l'écran, peut-être un peu plus, mais oui. Moins par le face-à-face. Ça pourrait avoir un lien aussi.
Oui, tout à fait. Parce que c'est sûr que quand on est en face à face, il y a de la résonance. Face à un écran, c'est pas du tout la même chose. Puis souvent, on s'entend face à un écran, on sera pas en FaceTime. Là. On va texter, on va utiliser Messenger, mais ce sera pas un face à face non plus. Là.
Mais dans ce papier-là, on disait qu'il y a une génération de ça. Là. Il y a 20, 30 ans, les Américains, les jeunes Américains buvaient plus, prenaient plus de drogue. Les adolescentes étaient plus à risque d'avoir des grossesses non désirées. Ça s'est tassé. Et là, à partir de 2007, ce qu'on a vu, c'est une hausse de l'automutilation, hausse des suicides. Est-ce qu'on voit la même chose au Québec?
Des suicides, pas nécessairement. De l'automutilation, oui. Des idées suicidaires, oui.
OK. Vous, Dr. Loiseau, vous êtes psychiatre depuis combien de temps?
Depuis 7 ans.
OK. Puis qu'est-ce qui a changé depuis, entre le début de votre pratique puis aujourd'hui?
La pandémie. Dans mon cas, là, ça a vraiment été... Il y a un avant puis il y a un après.
Avez-vous un conseil pour les parents qui cognent à des portes, qui veulent des services, qui sont sur des listes d'attente, qui se font dire, écoutez, ça va être dans 6 mois, ça va être dans 8 mois, ça va être dans 12 mois?
Pour les parents, ben c'est de continuer à cogner à toutes les portes, à appeler pour se faire prioriser s'il faut, si la situation se détériore, pour que le jeune obtienne des services. Peut-être regarder aussi du côté des écoles, du CLSC, des personnes en cabinet ou en privé. Mais tu sais, moi, j'aurais plus des conseils ou des suggestions de solutions à des paliers plus élevés, là, comme palier de gouvernement, par exemple.
Ce serait quoi vos suggestions de solutions?
Ben vite, comme ça, c'est sûr que nous, on a déposé un document détaillé sur le site de la MPQ, là, qui est le plan d'action pour les soins psychiatriques jeunesse. Il y a beaucoup de solutions là-dedans, mais si je vous résume, on parlait beaucoup de prévention primaire, d'optimiser tous les paliers de services en ressources financières et en effectifs, en personne, là, finalement. Mm-hmm. Puis, d'utiliser un peu plus la tâche de pédopsychiatre répondant, c'est-à-dire si on partage un peu plus les tâches, nous, comme pédopsychiatre, on peut pas fournir à toute la demande, que c'est impossible. Donc, tu sais, est-ce que les professionnels autres, comme nos psychologues, les pédiatres, les médecins de famille, c'est qu'ils en prennent un peu plus, mais que nous, comme pédopsychiatre, on pourrait être mis à contribution pour les soutenir là-dedans, leur donner des conseils, ce qu'on appelle vraiment le pédopsychiatre répondant, que ça pourrait être optimisé. Là.
Merci d'avoir été avec nous, Dr. Loiseau.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée. C'était Dr. Annie Loiseau, psychiatre, présidente du comité psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence à l'Association des médecins psychiatres du Québec. Vous savez, je reçois, parce que j'anime ici, parce que je chronique à la presse, je reçois beaucoup, beaucoup de courriels, de toutes sortes. Des fois, c'est juste des réactions aux chroniques, mais des fois, ce sont des problèmes très concrets. Puis, il y a quelques jours, j'ai parlé à une mère de famille qui est désemparée devant les problèmes de santé mentale de son enfant. Et quand elle cogne à des portes du système, les portes n'ouvrent pas. Donc, il y a ça. Et là, vous avez entendu Dr. Loiseau, il y a une pénurie, on est en déficit de pédopsychiatres au Québec. Et ça arrive à un moment où il y a une explosion de toutes sortes de troubles de santé mentale chez les enfants. Et je vous dis, le réflexe, c'est peut-être de dire, les écrans puis la pandémie. Oui, mais il y a quelque chose d'autre. Je parlais du dossier du New York Times. Il y a quelque chose. C'est-tu dans le mode de vie? C'est-tu dans la façon dont les interactions ont changé? C'est-tu le stress des adultes qui est transposé sur les enfants? Je ne sais pas. Mais je suis quand même, moi, vraiment sidéré par le nombre d'enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est extrêmement inquiétant aux États-Unis. Puis j'ai pas réussi à savoir là, si on avait l'équivalence ici au Québec, là, mais aux États-Unis, depuis une quinzaine d'années, 15 ans environ, autour de 2007, on a vu là l'anxiété a augmenté, les automutilations ont augmenté et les suicides ont augmenté. Donc, c'est pas juste, je pense, de dire que les enfants sont plus aussi forts qu'avant. Moi, je pense que les humains sont toujours aussi forts qu'avant, mais il y a peut-être des choses qui changent dans l'environnement. MC?
Écoute, toi, t'en reçois beaucoup. Moi, dans mon entourage, c'est pas arrivé une fois, là. Je parle de 5, 6, 7 fois, là, des amis qui ont des jeunes, des ados, mais des jeunes plus jeunes, qui ont des problèmes. Moi, je vous ai parlé pour les adultes, il y a quelques semaines, là, avec quelques mois, pour des solutions. Et là, le problème, parce que le docteur en parlait, oui, il manque de médecins, mais là, il va falloir qu'on se parle, qu'on trouve un système, parce que la balle de ping-pong, là, les gens vont à l'urgence de Sainte-Justine, ils renvoient dans l'est de Montréal, dans un CHSL,
dans un CIUS,
qui renvoient le centre de santé mentale, c'est juste les adultes, fait qu'ils peuvent pas aller là, qui les renvoient, ils allaient dans le privé, il y a pas de perlasse dans le privé, qui les renvoient à l'école, qui les renvoient. Sérieusement, Patrick, il faut faire qu'on fasse quelque chose. On va perdre du monde. Là. C'est assez urgent.
C'est mathématique.
Je sais pas. Il faut qu'on trouve un guichet unique. Quelque chose de logique. Parce que ça fait pas de sens.
OK. Bon, les ruelles vertes.
Oui.
Salut, Luc.
Allô.
Catherine Beauchamp est un peu remontée, est un peu fâchée parce que dans sa ruelle, il y a des citoyens, des voisins qui veulent une ruelle verte. D'abord, explique-nous, c'est quoi le principe?
Luc, moi.
Non, Luc. Okay, Luc, commencez.
Ah ben le principe, écoute, c'est comme les pâtes, il y en a de toutes les sortes, hein, avec toutes les sauces. Il n'y a pas un modèle de ruelle verte. Tu peux avoir des ruelles vertes qui sont simplement des ajouts des retraits d'environ un mètre d'asphalte à certains endroits pour faire pousser des plantes. Dans d'autres cas où il y a des gens qui ont refusé qu'on excave le sol, c'est simplement des pots de fleurs qui sont ajoutés. Mais les vraies ruelles vertes, c'est les ruelles vertes que tu fermes à un bout et qui permettent d'enlever l'asphalte sur une part importante de la ruelle, ou des fois pas importante, mais du moins toute cette largeur-là de ruelle, et de faire planter en plein sol des arbres ou des plantes en faisant cheminer un chemin à travers cette plantation-là. Fait qu'il y a toutes les possibilités. Puis il y a plusieurs objectifs. Alors, il y a l'objectif, évidemment, de verdissement. Il y a un objectif de réunion sociale aussi, communautaire, parce qu'en théorie, bon, la ville paie pour les plantes, elle paie pour les excavations, mais c'est les citoyens qui sont aux abords de la ruelle, là, les riverains, qui doivent s'en occuper. Okay. Généralement, on pourrait mettre ça au singulier, parce qu'après la première année, tout le monde, oui, fait que les citoyens s'en occupent, puis à un moment donné, c'est la citoyenne qui s'en occupe, mais 4 ans plus tard, parce qu'il en reste juste une.
C'est magnifique comme concept. Ouais. Je vois déjà là des ruelles verdoyantes, mais dans l'exécution, Catherine Beauchamp, toi, t'étais moins ça.
Ben c'est ça, parce que personne qui compte les ruelles vertes. Tu sais, je veux dire, quand on demande, je veux dire, tout le monde est de bonne foi et pour améliorer l'environnement. Puis comment ça s'est fait, nous, c'est qu'on est venu nous sonder de façon là, de porte à porte pour nous demander si on acceptait qu'il y ait des bouts de ruelles de fermer, justement, pour réduire un peu la circulation des voitures. Et on nous a dit, bon, on va faire un projet de ruelle verte. Mais moi, j'étais contre parce que, première des choses, j'ai des voisins en arrière de chez nous qui sont sur le parti. Eux autres, ils ont un 5 à 7 le mardi, le mercredi, le jeudi, puis ça finit à 11 heures. Fait que j'ai dit, si on crée une ruelle verte en arrière, ça va juste empirer la situation. Fait que déjà là, je voulais pas avoir
mais
de ruelle verte.
Deux secondes, une ruelle verte, là, parce que là, je sais que je vais avoir l'air absurde, là, mais quand t'es en dehors de Montréal, qu'est-ce que c'est ça? On enlève l'asphalte pour mettre des arbres?
Oui, comme Luc vient d'expliquer, on verdit la ruelle. Mais attends, j'y arrive.
Il n'y a plus de char à rien. Okay.
Non, les voitures vont pouvoir passer. Mais là, tu sais, déjà là, je me suis dit, OK, je suis contre pour des raisons sociales. Mais outre ça, c'est que on a fait du sondage de porte à porte, mais tu sais, il y a des propriétaires occupants. Il y a des résidents locataires. Il y a des résidents locataires qui sont partis, puis qu'eux autres, ils étaient pour la ruelle verte, mais ils sont déjà partis depuis que le projet arrive. Fait que là, il y a des gens qui ont voté pour, qui sont même pas là pour assumer leur décision de vote. Et nous, on a demandé avec certains voisins des études, nous disant, OK, c'est bien le fun, on va enlever les îlots de chaleur, mais comment vous faites ça? Puis est-ce que c'est vrai que ça fonctionne? Donc, pour qu'une ruelle verte soit efficace, il faut recouvrir la surface à 50% de verdure. Nous, dans notre cas, ce qu'on nous a dit avec l'organisme fait comme chez vous, ils ont dit, ah non, ça c'est trop compliqué à entretenir. On peut pas mettre de la pelouse sur la ruelle verte. Donc, on va vous mettre des bacs à fleurs creusés sur le bord. Fait qu'on a 52 bacs à fleurs qui s'en viennent.
OK. Qu'est-ce qu'il y a mal avec ça?
Non, mais première des choses. Là, deuxième, pérennité. Je me dis, OK, moi, je gérerai pas un bac à fleurs. J'ai de la misère à arroser les plantes chez nous. Je pense vraiment que je vais aller faire du travail communautaire dans la ruelle en arrière pour encourager des gens à boire des verres de vino dans le cours? No. Fait que ça m'intéresse plus ou moins. Et là, je me suis dit, ben, OK, il y avait une dame. On a eu un meeting là, dans la ruelle. Il fallait choisir les plantes, OK? Écoute, on a failli se battre. Sérieusement, on a failli se battre parce que Il y a une madame qui était très, très motivée, mais il y avait à peu près plein de gens qui voulaient rien savoir. Fait que je me dis, où est la pérennité? Dans 5 ans, ces gens-là vont-ils être encore là pour s'occuper des 52 bacs à fleurs creusés?
Luc, je veux t'entendre sur, justement, les chicanes que ça cause dans les ruelles. C'est pas la première fois que j'entends ça, là.
Ah non, ben non, écoute, c'est un classique, là. Il y a quasiment plus de chicanes que de plantes, là, dans les ruelles vertes. En fait, ça, le ton monte de façon extraordinaire entre ceux qui veulent se garer à l'arrière puis ceux qui disent, oui, mais... t'as rendu compte que pour te garer, ben, il faut que tu franchisses tout l'espace de la ruelle. Puis si toi, t'avais pas à te garer, là, il y a un bout, mettons, de 200 mètres de ruelle qu'on pourrait verdir. Mais à cause de ta petite voiture à toi, on pourra pas verdir ces 200 mètres-là parce que toi, tu veux te rendre chez toi. Et l'autre de dire, ben oui, moi, j'ai acheté cette maison-là parce qu'elle avait un stationnement à l'arrière. Je veux quand même pas m'en priver. Et puis, oui, c'est loin d'être l'harmonie, là.
Mais Luc, les gens ont des voitures. Je veux dire, c'est dur de faire abstraction de ça, puis il y a des stationnements.
Il y a Hydro aussi qui passe dans notre ruelle, là, nous.
Normalement, c'est en
arrière. Il y a Hydro, puis tu sais...
C'est plutôt belle en arrière.
Je vais prendre mon petit cas particulier, si tu permets, là.
Oui, vas-y.
Tu sais, change d'auto, là. Je vais avoir une auto électrique. J'ai le choix entre 2-3 bornes dans le quartier ou d'en mettre une dans ma cour. Je trouve que je fais ma part un peu.
Mm-hmm. Oui.
C'est tout, un commentaire éditorial.
Non, oui. Non, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on n'est pas documenté. On essaie d'avoir les coûts, pas capable d'avoir les coûts. Là,
oui, mais c'est pas un projet d'aéroport, Catherine.
Je sais, mais ils nous ont dit, on va vous poser 2 grosses pergolas à chaque bout de la ruelle. Hey, ça coûte combien, ça? Puis, tu sais, je veux dire, dans 20 ans, ce pergola-là, ça va avoir l'air de quoi? Puis, on est allé voir dans des quartiers où il y a des ruelles vertes à côté, là, de chez nous. C'est super négligé. Fait que ça m'écœure un peu de savoir qu'on a toute la bonne ambition du monde de vouloir... Là, les gens, ils pensent qu'ils vont faire de quoi pour l'environnement, Luc, là. Mais on a 52 bacs à fleurs, là. C'est tout, là.
Ben, regarde, là-dessus, je t'approuve. Moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, des bacs à fleurs, c'est une espèce de concession qui est faite parce que souvent, les gens, ils veulent pas qu'on creuse devant chez eux pour faire... surtout quand la maison arrive jusqu'au bord de la ruelle, là. Puis là, ils disent, ben là, écoute, c'est ma fondation qui va... elle va être fragilisée ou il y a de l'eau qui va rentrer par là. Alors, il y a beaucoup de craintes. Et là, il y en a qui disent, on va mettre des bacs à fleurs. Quand t'es rendu là, moi, c'est tout le temps un gros non. La fin du projet de ruelle verte, là. Fin. Le projet de ruelle verte, c'est pas supposé coûter 100 000 piastres. Ben, mettons 200 000. Puis, c'est pas supposé non plus être une plantation artificielle dans un bac que tu vas être obligé, que comme tu as raison de dire, que dans 10 ans, le bac, il va avoir l'air du yarb si jamais il est encore là. Il faut que ça soit et qu'il y ait un minimum de beauté pour un maximum de beauté pour un minimum d'entretien. Par exemple, il y a eu toute une mode de dire on va mettre du pavé uni à jourer là, qui laisse pousser le gazon. Ben, ça marche dans 10% des cas, là, parce que s'il y a souvent des voitures, tu sais ce que je veux dire, hein, c'est du pavé avec des petits carrés puis le gazon pousse là-dedans. Dans 10% des cas, ça fonctionne. Dans 90% des cas, les voitures passent là-dessus, ça écrase le gazon, ça se transforme en boue assez ferme, assez dense d'ailleurs, parce que les voitures passent souvent dessus. Puis là, ça absorbe même plus l'eau. Donc, ça fait une grosse flaque d'eau puis de la boîte. Alors, il y a les bacs qui est une mauvaise idée. Il y a ces espèces de pavés-là filtrant à l'eau qui est une mauvaise idée. Il y a eu toutes sortes de tentatives. Tout ce qui est en bois, c'est une mauvaise idée. C'est un work in process. Et pour que ça marche, il faut avoir des concessions. Les gens disent, OK, on accepte là, que ce bout de ruelle-là, là, on l'utilise pas. Les gens passeront par l'autre côté. Là, on amène la pépine, on creuse, et là, on plante vraiment beaucoup d'arbres. Il faut voir les photos où là où ça marche. Là où ça marche, tu avais un espace minéralisé. Et après, mais dorénavant, tu as un petit espace quasi boisé au bout de la ruelle. Je peux vous faire une visite d'une dizaine, quinzaine de ruelles qui ont fonctionné très, très bien juste autour de chez nous. Les gens sont très contents, là.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, puis je vais clore le débat là-dessus, Catherine et Luc. Et bye-bye, vive la banlieue.
Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est... Regarde, non, mais la difficulté, pardon, Catherine.
Luc, en 15 secondes.
Tu viens de mettre une bûche dans Luc.
Ça marche parce que c'est pas facile de vivre ensemble. Non. Mais c'est pas pour autant qu'il faut sacrer son camp, chacun d'un ranch.
Hey, je vais aller gérer ma cour, Luc. Okay? Hey, bye, juste la mienne.
Patrick Lagacé en accéléré.
Je sais pas comment ça se passe hors de Montréal, mais à Montréal, depuis quelques années, moi, ça me fascine. J'ai un ado et le lieu de rassemblement des ados, c'est vraiment les parcs. Et ils veulent être là pour des fois, ce qu'ils disent, on va aller faire un chilling. Ben, écoutez, il y a un projet qui s'est penché là-dessus, qui a étudié, qui a fait une recherche là-dessus. On a sondé 3000 jeunes dans 7 parcs montréalais. Constat principal, c'est qu'ils subissent souvent une forme de discrimination durant la nuit. On va en parler avec la chercheuse Nathalie Boucher des études urbaines et elle est directrice de l'organisme Respire. Madame Boucher, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est 8000 ou 3000?
En fait, on a fait des observations dans 6 parcs de Montréal, un peu partout sur l'île, différents parcs, différentes grandeurs, différents quartiers sociaux et économiques, et on a observé 8000 usagers usagères, dont à peu près 35% étaient des jeunes. Et c'est à peu près 2400 jeunes qu'on a observés, qu'on a suivis, qu'on a regardé qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, qui parlaient, quel mobilier ils utilisaient, est-ce qu'ils jouaient au basket, est-ce qu'ils chillaient dans un coin, qu'est-ce qu'ils faisaient.
Mais qu'est-ce que vous vouliez scruter par rapport aux jeunes puis les parcs quand vous êtes lancé dans ce projet-là?
En fait, c'était pas tant les jeunes et les parcs, c'était les jeunes et la nuit.
OK.
Fait que on a fait nos observations entre 4 heures du soir et 3 heures du matin dans les parcs, mais on a aussi parlé à 63 jeunes à peu près pour savoir qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas dans les parcs, qu'est-ce qu'ils font comment ils font pour s'y rendre, où est-ce qu'ils vont ailleurs quand ils habitent dans des quartiers qui sont pas très bien pourvus en parcs, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, comment ils trouvent les déplacements, c'est quoi leurs obstacles, leurs difficultés.
Bien là, vous allez peut-être pouvoir percer un mystère de parents. Pour moi, Mme Boucher, j'ai un fils de 16 ans, puis l'été passé et l'été d'avant, tout l'été, ça a été dans les parcs. Qu'est-ce qu'ils font dans les parcs?
Bien, en fait, c'est peut-être décevant, mais rassurant. Ils font pas grand-chose. Ils font ça, ils chillent, ils sont assis, ils discutent entre eux. Puis on a vraiment défini de chiller comme une disposition. Tu sais, t'es là et t'attends qu'il y a peut-être quelque chose qui va peut-être être plus le fun, qui va se passer. T'es disposé à faire autre chose, mais ça se peut qu'il arrive rien, puis que tu restes là, chillé avec tes amis. Tu parles, t'écoutes la musique, sur le téléphone, tu te déplaces, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent avec des sacs de chips, c'est vraiment très relax, très inoffensif. On a observé aucun comportement criminel, aucune activité illégale, peut-être des choses qui sont plus ou moins tolérées selon les endroits, de la musique plus ou moins forte, des gros rassemblements, mais c'était très dans la légalité. Il n'y a rien de suspect à ce que les jeunes font dans les parcs le soir.
Cependant, si je me trompe pas, la plupart des parcs à Montréal ferment à 11 heures. Vous avez fait des observations entre 16 et 3 heures du matin. Après 11 heures, ils étaient techniquement illégaux.
Oui, mais ça diminue drastiquement. Les éclairages ferment, les équipements sportifs ferment. Et y a, dans certains parcs, il y a la police qui fait des rondes pour avertir qu'il faudrait quitter bientôt. Mm-hmm. Fait qu'il y a vraiment une diminution drastique. Puis même ceux qui restent au-delà de 11 heures, puis tu sais, on le sait pas dans le fond si les jeunes quittent à 11 heures parce qu'ils ont besoin puis ils ont plus envie d'être là, ou c'est parce qu'il faut. Mais ça serait vraiment intéressant de pousser, en fait, de faire des expériences avec des heures d'ouverture élargies, plus en fait, peut-être pas d'heures de fermeture de parc pour voir est-ce qu'ils resteraient plus tard, parce que ils ont peut-être cette énergie-là, ce besoin-là de rester tard dans les parcs. Donc ça, c'est une question qu'on a.
Et un de vos constats dans cette étude-là, Nathalie Boucher, c'est que les jeunes subissent souvent une forme de discrimination la nuit. Quel type de discrimination?
Ben, en fait, on peut dire qu'ils n'ont pas accès à un tapis rouge quand ils sortent la nuit. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est loin de là, en fait. Justement, les citoyens, citoyennes qui sont riverains de parcs parfois peuvent voir des rassemblements, puis dire bon, ben c'est certainement louche, on appelle la police, fait que ça c'est de la discrimination. De dire bon ben on les jeunes, on sait qu'ils sortent plus tard que les adultes, donc est-ce qu'on leur offre des moyens de transport adéquats pour qu'ils se déplacent dans leur budget, puis pas juste avec des Uber et qui sont hors de leurs moyens. Donc, il y a un manque d'intérêt pour une ville bienveillante envers les jeunes aussi la nuit, et particulièrement la nuit, à des heures où ils sont par eux-mêmes, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, il faut qu'ils puissent se débrouiller, puis se déplacer, puis faire leur chilling en toute sécurité et bienveillance.
Mais j'ai toujours dit que fermer les parcs après 11 heures, c'était quelque chose qui était à la limite pas sécuritaire. C'est peut-être une perception que j'ai. Plus il y a de gens dans le parc, plus il va y avoir de gens aux aguets si quelqu'un est agressé, par exemple.
Ouais, dans le sens que ouais, et la même question s'est posée avec l'éclairage. On a fait dans les entrevues qu'on a fait, on a dit est-ce que vous préférez beaucoup d'éclairage ou peu d'éclairage? Puis en fait, à certains moments, les jeunes se sentent plus en sécurité quand ils n'ont pas un gros spot de lumière sur eux. Et d'autres fois, c'est le contraire. Non, on veut être éclairé parce que selon où on passe, où on va, on veut être vu et pouvoir voir. Mais ça prend la lumière, mais c'est pas toujours. Donc, à chaque endroit, si la ville de Montréal ou les arrondissements s'entendaient pour changer leur réglementation puis permettre des heures différentes d'ouverture de parc, il faudrait quand même que ça soit propre à chaque site, propre à chaque quartier. Puis est-ce qu'il y a des autobus qui permettent d'y aller là après 11 heures? Ben non. Alors, est-ce qu'on prolonge? Peut-être pas. Est-ce que c'est accessible en auto? Est-ce qu'il y a des terrains de basket? Est-ce qu'on ferme l'éclairage, mais on ouvre le parc plus tard? Fait qu'il y a vraiment une logique, comme le penser comme un écosystème un peu, puis pas faire des interventions isolées ou non réfléchies, mais vraiment le penser en fonction des besoins des jeunes qui sont proches, qui sont là dans le quartier puis qui veulent un espace où aller.
Intéressant. Merci beaucoup, Mme Boucher. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Salut, c'était Nathalie Boucher, chercheuse en études urbaines et directrice de l'organisme Respire. On va parler de la place des chiens dans nos sociétés et surtout dans les transports en public. Il y a plusieurs grandes villes du monde où les usagers du transport en commun ont le droit de se déplacer avec leur animal de compagnie. Londres, Paris, Berlin, Rome. Au Canada, Toronto, Calgary, Vancouver, c'est aussi autorisé. À Montréal, ce n'est pas autorisé, on peut avoir une amende, mais il y a un projet pilote permettant la présence des chiens en laisse qui va être mis en place d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a beaucoup de craintes. Il y a eu une pétition de la SPCA pour pousser la STM à agir là-dessus, évidemment pour permettre les animaux. Il y a eu un sondage Internet mené par la presse qui montre cependant qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est une mauvaise idée. Ce qui revient souvent, c'est on a peur de se faire mordre dans un lieu qui est clos. On va parler de tout ça avec Raymond Place, vétérinaire. Monsieur Place, bonjour.
Salut, Patrick.
Est-ce que les gens qui ont des craintes de se faire mordre dans un endroit clos, comme une rame de métro, ont des craintes justifiées?
Bien, malheureusement, je vais être obligé de te répondre oui. Moi, j'ai commencé à pratiquer en 1985, parce qu'on pense que c'est pas hier.
Oui, oui.
Des chiens qui tu sais, on risquait de se faire mordre moins souvent à l'époque que maintenant, là, dans les salles de consultation. C'est que les gens qui ont un chien, ça veut pas dire qu'ils maîtrisent leur chien. Puis c'est sûr que si on a un chihuahua, c'est plus facile à contrôler que si on a une grosse race. Là, je ne sais pas c'est comment le règlement va être encadré. Là, le projet pilote, c'est assurément une bonne idée parce que ça va faire sortir des faiblesses, les forces du système. Mais moi, c'est sûr que ça m'inquiète. C'est rarement l'animal qui m'inquiète comme les gens qui n'ont pas tant de contrôle sur leurs animaux.
J'ai déjà lu qu'en Suisse, c'est quand il y a eu le grand débat sur les pitbulls, c'était l'été là où il y a une dame qui a été tuée par un chien, par le chien de son voisin. Il y avait eu des attaques comme ça. J'avais lu qu'en Suisse, quand un animal, un chien, t'es obligé de suivre un cours de dressage pour que le chien soit sous ton contrôle. Et il semble que les chiens peuvent aller partout, puis c'est pas un problème. Est-ce que ce serait une sorte de solution?
Ben absolument. Absolument. Et c'est parce que la différence tu comprends que moi, là, si j'essaie de faire des photos avec un appareil de 5 000 $ puis je manque ma photo, c'est plus pas de mal. Mais quand j'ai un chien, là, le fait que je cherche pas comment contrôler mon chien, là, la conséquence, c'est pas la même. Fait que le devoir à suivre un cours pour être capable de contrôler un animal, si mon animal reste dans ma cour en permanence, c'est probablement pas nécessaire. Mais si mon chien a le droit d'aller dans le métro, ça commence à être pas mal plus nécessaire. Donc, on a besoin d'un permis pour à peu près tout. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait besoin d'une plaque après notre bicyclette. On a besoin d'avoir une médaille avec notre chien. Mais ça, c'est OK, tu peux aller dans le métro, mais tu vas dans le métro à condition que tu as prouvé que tu es capable d'aller dans le métro. Tu sais, pensons juste aux excréments de chiens, là. Tu sais, je me promène dans un parc, là, puis il faut que je fasse attention où je marche parce que je vois FORN numéro 2 avec mon chien. Ça veut dire que les gens qui ont un animal, là, qui ont un chien qui se promène dans un parc, sont pas foutus de comprendre qu'il faut que tu ramasses les crottes de ton chien. Cette personne-là, ça se peut-tu qu'elle prenne le métro? Mais la réponse à ça, c'est oui.
C'est
là, je sais pas moi qu'est-ce qui va arriver, mais qu'il y en ait des numéros 2 dans le métro. C'est qui va s'occuper de ça? Puis encore une fois, là, moi, là, je suis 100% pour que les chiens puissent aller dans le métro. Moi, j'ai une voiture, mais si t'as pas de voiture, tu veux te promener à Montréal, il faut que tu aies le droit de le faire. Quand on a un chien, ben, on aime ça quand les chiens sont autorisés quelque part, que ce soit dans un parc national. Là, ben, dans ce parc national-là, il n'y a pas le droit d'aller autre part. Donc, je suis content moi, que mon chien soit autorisé. Fait qu'il devrait être autorisé à plein de places. Malheureusement, c'est que tu as une proportion des gens qui est souvent, puis en fait, en généralement très, très petite, qui donne un très mauvais nom, puis qui va. Et puis là, il s'agit qu'il arrive un accident. Bon, comme tu as parlé avec les pitbulls, tu sais, il y a eu quelques accidents, ça a créé une tollée. Là. Déjà, on a eu un petit trouble avec la réputation des grandes races. Et là, faut assurément pas avoir un recul là-dessus. Puis il s'agit d'un accident dans le métro que ça arrive, là.
Est-ce que la muselière, ça peut être un bon outil pour limiter les dégâts?
Absolument.
Donc, dans le projet pilote, Raymond Place, est-ce qu'on devrait l'obliger?
J'ai de la misère à te répondre à ça, mais regarde, dans le métro, je vais te dire, actuellement, moi, là, tu prends un chien qui est un peu peureux. Tu sais, le chien, là, quand il a peur, là, il a le choix, il paralyse, il se sauve ou il meurt.
Oui.
C'est ça, ces trois options-là. Quel qu'il va prendre, moi, je ne sais pas. Ben, si, dans les trois options, le jumelle muselière, il y en a une qui vient disparaître.
OK, regarde. Tu connais les chiens parce que ça fait partie de ta pratique de vétérinaire, Raymond. Tu es dans le métro, il y a un chien qui arrive avec son maître ou un maître qui arrive avec son chien. Qu'est-ce qui fait que tu sors de la rame de métro ou que tu restes dedans?
Ben, moi, c'est parce que le chien, tu comprends que là, le chien, il devrait avoir plus peur de moi que le contraire. Là, tu comprends? C'est pas. Moi, mettons qu'on connaît pas ça. Là. Mm-hmm. Moi, là, le chien, là, quand je le regarde, son langage corporel, il va me dire. S'il a de l'air d'avoir peur, le chien, là, je ne sais pas comment il va réagir parce qu'il ne sait pas lui non plus comment il va réagir. Là, tu comprends qu'il y a des endroits aussi que c'est vrai que les chiens sont acceptés, là, mais ils ne sont pas acceptés aux heures de pointe où le métro est littéralement plein parce que là, le chien, il va où? C'est normal qu'il ait peur. Mais moi, c'est la peur du chien. Là, les oreilles sont en bas, là, la queue est en dessous des jambes, il y a le poil raide sur le dos. Là. Ben là, moi, ça, c'est tous des signes là, que je me dis, je vais peut-être attendre le prochain wagon. Là.
Parce que c'est un chien qui est dans une position effrayée, puis un chien effrayé peut attaquer.
Ben, il peut. Lui, il va-tu voir? Tu sais, parce que là, attaque, c'est un prédateur. Mais là, le prédateur, là, normalement, on ne devrait pas le voir là. Mais c'est pas tant attaquer, c'est percevoir le mouvement de quelqu'un qui est à proximité de lui comme étant un mauvais mouvement. Tu sais, moi, si je te rencontre, là, j'arriverai pas, là, je vais te serrer la main, là, Patrick. Je vais arriver, dans le fond, la main ouverte, puis le dos de la main dirigé vers le sol. Mais quand les gens voient un chien, ils arrivent avec la main au-dessus de la tête du chien, puis le dos de la main dirigé vers le ciel. Mais moi, si je fais ça avec quelqu'un dans un métro, là, ça se peut que tu trouves qu'il va penser que je suis en train de vouloir lui donner une claque. Là, tu sais, il va reculer. Mais le chien, il va percevoir comment ce qui se passe dans le métro. Puis moi, ça marche dans d'autres villes. Là. Fait que probablement que mes craintes ne sont pas justifiées. Là. Mais il faut que ça soit encadré. Puis je me demande, moi, qui vérifie ceux qui se comportent pas adéquatement? Y a-t-il quelqu'un là, qui va vérifier ça dans le métro? Là? Puis moi, ça m'inquiète.
Vraiment
si
intéressant.
Est là pour vérifier.
Vraiment intéressant. Mais ce que j'en retiens, Raymond, c'est que la solution mitoyenne là, qui rassurerait le monde, c'est que les chiens soient forcés de porter une muselière.
Ben, à court terme, c'est assurément un moyen qui permettrait, dans le fond, aux gens d'être plus confortables puis de permettre à ceux qui ont un chien d'aller du point A au point B. Un jour, peut-être qu'on pourra graduellement enlever ça, là. Que ce soit le basket ou la muselière, il y a plusieurs moyens, là. Mais assurément, moi, je pense que ça pourrait nous permettre une zone tampon pour nous permettre d'apprivoiser ce système-là. Là.
On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Raymond. Toujours un plaisir.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. Raymond Place, vétérinaire. Cap. Toi qui es la seule humaine autour de la table qui a un animal, qui a un chien.
Mais moi, je suis d'accord. Je prends que très rarement le métro, mais si j'avais à prendre le métro, j'aimerais ça pouvoir me véhiculer avec mon chien si jamais je veux aller. Je sais pas, me voir chez quelqu'un à amener le chien avec moi. Mais je suis d'accord aussi que ça comporte des risques là, quand même. Puis tu sais, moi, j'ai un petit chien qui suit des cours avec un éducateur canin. J'ai une maternelle de chien. J'aspire à ce que le chien se comporte bien en public. C'est pas tout le monde qui a cette façon de réfléchir. Il y a des gens qui sont complètement irresponsables avec des animaux. Puis c'est souvent l'exception qui va faire que ça va devenir probablement tragique. Parce que je suis sûre qu'à peut-être à 85%, ça peut bien se passer.
Moi, je comprends tout le monde là-dedans. Je comprends les propriétaires de chiens qui n'ont pas de véhicule. Puis on le sait, il y a de moins en moins de gens qui ont des véhicules qui se disent « Mais comment ça se fait que je peux pas me promener avec mon chien, aller du point A au point B? » Je comprends ça. Je comprends les gens qui sont allergiques aussi. Je comprends les gens qui ont peur. Puis je comprends les gens qui craignent justement le cabochon, la cabochonne qui n'est pas capable de contrôler son animal. Tu sais, tu dis 85% du temps, ça va bien. Moi, je suis convaincu même que c'est 96%. Mais sur les milliers de personnes qui se promènent dans le transport en commun, le 4%, j'y vais au hasard. Là. Oui, merci pour les bruits de fond. Je suis convaincu que sur les milliers de personnes, ça n'en prend pas beaucoup. Mais tu sais, je parlais de la muselière tantôt. S'ils ne vont pas avec la muselière, tu as une personne qui se fait attaquer pendant le projet pilote.
C'est fini.
Bonne chance. C'est la fin du projet. C'est la fin de l'idée. OK.
Patrick Lagacé en accéléré. I want to ride my
Je veux faire du BC à pédale. Je veux faire du BC à pédale.
À venir travailler avec ton vélo?
J'ai été un peu paresseux ces derniers temps, puis je t'avoue que la météo qui n'est pas avenante de ce temps-là, ça me tente pas tant que ça. Yvan Martineau. Salut. Je rappelle que tu es porte-parole du Salon du vélo de Montréal. On peut t'entendre chaque samedi, 9h30. Chez Paul Oud, d'abord, c'est-tu moi où il y a vraiment une explosion de la popularité du bicycle à pédale?
Ah, il y a une explosion du bicycle à pédale, de sa popularité, mais il y a surtout, je dirais, deux facettes. D'abord, le vélo de gravier, le gravel bike, qui augmente, mais le vélo à assistance électrique, c'est complètement dingue. Il y a de plus en plus de gens et je les comprends. Tu veux aller travailler au vélo au boulot, mais pas arriver tout en sueur. Vélo assistance électrique, tu te remets d'une blessure, tu es une personne vieillissante, le vélo est pas ton sport principal, mais tu aimerais ça parcourir de plus grandes distances. Il y a tellement d'avantages au vélo assistance électrique, c'est fantastique. Et pour des gens comme moi qui adorent le vélo, on se dit « wow ». Je vais pouvoir en faire jusqu'à quel âge grâce au vélo assistance électrique.
Mais Yvan, j'ai lu plusieurs analyses là, depuis un an ou deux environ là, qui fondent beaucoup d'espoir justement dans le vélo assistance électrique comme moyen de transport.
Ah ben oui, ça évidemment. Bon, je donnais l'exemple, tu veux aller travailler à vélo, mais tu sais que si tu te rends au boulot, mais le soir tu as toujours un vent de face, ou des côtes, exemple, oui, effectivement, tu remontes la côte Berry ou peu importe. J'écoutais MC quand il disait « bon, j'aime pas ça parce qu'il faut que je revienne, ça monte plus ». C'est toutes des circonstances comme ça qui font que chacun, tu sais, est-ce qu'on est une personne vieillissante, peu importe, là. Et chacun va aller trouver un élément qui va se dire « hey, moi, ça serait vraiment intéressant que j'ai un vélo assistance électrique pour telle ou telle ou telle raison. Et je vois aussi, moi, je guide des voyages de vélo un petit peu partout dans le monde, puis je vois des gens souvent, le couple, l'homme est pas tellement mordu de vélo, mais la dame l'est, ou vice-versa. Mais là, tu as la chance de faire un voyage de vélo en Europe ou le vélo bateau sur le Danube. Ben, si tu as un vélo assistance électrique, même si c'est pas ton sport de prédilection, ben à ce moment-là, plutôt que t'empêcher de vivre l'expérience d'un beau voyage avec ton conjoint, conjointe, ben tu peux le faire quand même.
Un vélo électrique, là, un bon vélo électrique, là, je parle pas du plus haut de la gamme, là, ça coûte combien à peu près?
Ben, je pense qu'il faut calculer au moins 3000 $. Vous allez voir beaucoup de vélos à 5 000-6 000 $. Moi, ce que je vais vous donner comme conseil, magasinez ça dans des boutiques spécialisées. Allez pas dans les grands magasins. Allez chercher des bons renseignements dans des boutiques où vous aurez un bon service après-vente également, où on va bien vous positionner sur le vélo. J'entends tellement souvent des gens qui me disent « Moi, le vélo, c'est pas fait pour moi et c'est ça. » Mais souvent, c'est juste de changer, et là, je parle du vélo plus conventionnel, une paire de roues, ou de changer son positionnement et on va se trouver beaucoup plus confortable. Alors, allez chercher le vélo qui vous convient aussi. Je vois des gens qui s'achètent un beau vélo. Écoute, j'ai la chance, un bon rabais, un vélo à 10 000 $. Oui, mais c'est parce que c'est un vélo de route hyper performant, alors que toi, t'aimes rouler sur des pistes cyclables en poussière de roche, parfois sur des chemins de terre. Allez chercher le vélo qui vous convient.
Yvan, la personne là qui dit OK, moi là j'habite en ville, j'habite en banlieue, je veux me promener en vélo, je veux pouvoir aller faire des randonnées de je sais pas moi là, rien de trop ambitieux là, 10 12 km. Le vélo idéal pour cette personne là, c'est quel type de vélo?
Ben, faut savoir si la personne va toujours rouler sur l'asphalte, sur des pistes cyclables asphaltées ou parfois sur des poussières, sur des parcours en poussière de roche. Exemple, le petit train du Nord qui est en poussière de roche. À ce moment-là, t'es mieux avec un vélo hybride ou un vélo de gravier, avec des pneus un peu plus larges ou des pneus de cyclotourisme. Et là, vous allez être beaucoup plus confortable. Faut savoir aussi que, avec l'apparition du Grand Tour à l'époque de Vélo Québec, tout le monde s'est mis au vélo Marinoni, les vélos de route. On était toujours dans la performance. Là, je remarque un grand changement. Je trouve qu'on est beaucoup plus dans le vélo plaisir, d'où la popularité du vélo de gravier. Tu roules sur des chemins de terre, des chemins très, très peu fréquentés. On a l'impression que les routes nous appartiennent. On est beaucoup plus près de la nature. Alors ça, c'est quelque chose qui est en vogue aussi.
Tu parles du gravel bike, Yvan. Est-ce que c'est le vélo à roues surdimensionné?
Non, le vélo à roues à pneus surdimensionnés, ça, c'est le fat bike. Le vélo de gravier, ça... Disons que la largeur des pneus, ça va être entre le vélo de route puis le vélo de montagne. Mais ça vous permet d'aller dans des chemins, comme je disais, qui sont pas asphaltés, qui sont en terre battue. Il y a des régions où il y a une abondance. Moi, je vis maintenant à Bromont. C'est un formidable camp de base pour... et faire du vélo de route, bon, l'estriade, et le vélo de gravier, et le vélo de montagne, parce qu'il y a des beaux centres de vélo de montagne, mais la région regorge de chemins non asphaltés. On peut aller vers Donham, Lac-Brome, Sutton, aller vers Magog, Coaticook. C'est ça, le vélo de gravier. C'est vraiment sur des chemins non asphaltés, des pneus plus gros, beaucoup plus confortables à rouler.
OK. Et là, bon, c'est le retour du salon du vélo. Yvan, dont tu es le porte-parole.
Stade olympique.
Stade olympique
en fin de semaine.
200 exposants. Parmi les exposants qui offrent des produits plus exotiques maintenant, disons, à quoi tu peux penser?
Ah, ben, je pense à un exposant qui va s'amener au stade. Lui, il a une flotte de vélos grand bi qu'il déplace dans des écoles, dans des festivals pour que les gens puissent essayer ça. Mm. On a plusieurs fabricants de vélos à assistance électrique et dont un qui a des vélos à assistance électrique, mais pliants. Faut savoir que dans le vélo à assistance électrique, maintenant aussi, au début, les grandes marques regardaient ça d'un air hautain, mais maintenant, toutes les marques ont des vélos à assistance électrique, vu la grande popularité. Mais tu as des vélos à assistance électrique de route, t'en as pour faire de la montagne, t'en as pour faire du fat bike l'hiver, t'en as vraiment une très, très grande gamme.
Fais-tu du vélo d'hiver toi-même?
Ah, moi, ça fait... écoute, ça fait 3 ans que je suis déménagé de Montréal, mais pendant 20 ans, j'allais faire mes chroniques à Salut Bonjour. Je couvrais mes matchs du Canadien au Centre Bell pour TQS à vélo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est dangereux. » Mais tous ceux qui disent ça, je pense qu'ils l'ont pas essayé. Moi, j'adorais.
Ben, je dois te dire, Yvan, là, pour l'avoir essayé, pas l'hiver qui vient de se terminer, celui d'avant... quand c'était un peu après l'inauguration du rêve là, sur Saint-Denis. Écoute, ouais. c'est beaucoup plus... c'est le fun, là, parce que t'es vraiment protégé des voitures. En hiver, tu le sais, là, la voie roulable est plus petite. Moi, je me sentais assez en sécurité, je te dirais. Là.
Ben, moi, je me suis toujours senti en sécurité. Évidemment, là où parfois on se sent moins en sécurité, c'est les automobilistes qui viennent nous frôler, qui ne patientent pas derrière avant d'effectuer un dépassement, que le véhicule venant en sens inverse soit traversé. Mais moi, je rappelle, hein, on est maintenant rendu à 54 % de la population au Québec qui fait du vélo. T'en as maintenant dans les statistiques officielles 700 000 qui roulent dès le mois d'avril. T'en as 1,5 million qui roulent en octobre maintenant. Mmh. Les saisons sont beaucoup plus longues et Vélo-Québec évalue à 190 000 personnes le nombre qui roule de décembre à mars également. Les saisons de vélo, en fait, c'est 12 mois par année maintenant.
Vraiment intéressant. OK, ça commence quand le salon du vélo?
Vendredi, samedi, dimanche, et je précise une chose, vu qu'on est dans l'aire de jeu du Stade olympique, on va avoir une piste d'essai de plus d'un kilomètre. Vous voulez essayer des vélos que vous voyez là au salon, qui vous tentent, ou des vélos à assistance électrique, ben ce sera la place. Et la plupart des régions touristiques du Québec sont là. Vous voulez rêver, escapade, voyage, venez faire un tour sur place.
Le message est lancé. Merci beaucoup, Yvan.
Merci, Patrick, et bonne saison de vélo à tous.
Merci, salut. C'était Yvan Martineau, porte-parole bien connu du Salon du vélo de Montréal.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.